Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cet événement et merci de vous être présenté en si grand nombre. Donc, je vais commencer par vous faire une petite mise en contexte du pourquoi de l'événement de ce soir intitulé « Qui est le terroriste? Criminalisation des mouvements sociaux dans un contexte de guerre au terrorisme ». Donc, on a pensé que ce serait intéressant de pouvoir se relier conjointement à différents groupes pour réfléchir sur cette question-là. Étant donné que, bon, entre autres, c'est sûr que la criminalisation des mouvements sociaux date pas du 11 septembre 2001, mais entre autres, toute l'articulation du discours médiatique de guerre au terrorisme, ici et un peu partout dans le monde, a entraîné comme conséquence la stigmatisation des mouvements sociaux, des organisations sociales, des luttes de résistance dans le discours médiatique. Et cette stigmatisation-là souvent a entraîné le fait de amener à une criminalisation des mouvements sociaux aussi. Donc, d'une part, tout le discours, toute cette chasse aux sorcières qui émane de la guerre au terrorisme fait aussi en sorte que on va souvent faire un lien insidieux dans les médias entre les mouvements de résistance et le terrorisme et donc justifier toute une série de mesures, de politiques qui sont mises en place par les différents États pour amener à légitimer la répression contre ces mouvements-là, puis aussi la criminalisation de ces luttes-là. Donc, on pensait que c'est important de pouvoir se pencher sur cette question-là. Et évidemment, ce soir, l'idée, bon, on ne pourra pas entrer en profondeur dans chacun des thèmes qui vont être abordés. On a voulu essayer de pouvoir faire les liens entre comment le discours et la guerre au terrorisme s'applique ici, mais aussi ailleurs dans le monde. Et donc, on a choisi d'avoir 5 invités qui vont parler sur le panel ce soir et d'essayer de faire les liens, finalement, entre les impacts que les luttes vivent par rapport au discours de la guerre contre le terrorisme ici et ailleurs. Et le but, c'est de pouvoir aussi avoir une discussion un peu à la fin sur quelle stratégie on peut mettre de l'avant en commun pour finalement pour faire face à cette attaque-là un peu orchestrée par la droite au niveau mondial. De criminalisation de nos luttes ou des luttes qu'on appuie, comment justement on peut ensemble faire une réflexion sur ça et peut-être même amener des pistes justement de réflexion sur des propositions d'action conjointe par rapport à ça. Donc, il va y avoir 5 interventions. La première va être faite par quelqu'un du réseau de la Commission populaire qui va nous présenter un peu comment justement ce discours de guerre au terrorisme se traduit par des politiques et des pratiques de sécurité qui permettent la criminalisation des luttes ici, mais aussi de banaliser, comment ce discours-là permet de banaliser des crimes d'État comme la torture et autres exactions. Ensuite, on aurait quelqu'un du collectif Certain Days qui va toucher plus le thème des prisonniers politiques aux États-Unis et comment justement ce discours-là a intensifié la stigmatisation des groupes là-bas. Ensuite, on aurait une présentation du Comité de solidarité autochtone de Montréal qui travaille avec différents mouvements de résistance autochtone ici. Qui va bien évidemment aborder le fait de comment les impacts sur les Autochtones ici. En quatrième lieu, une personne de Tadamon qui fait la solidarité avec les luttes au Moyen-Orient et en Palestine qui va pouvoir, plus principalement, va parler justement de la situation de la répression, de la criminalisation des organisations en Palestine, de la résistance là-bas. Et finalement, on va toucher le thème de la Colombie, de la persécution politique et judiciaire et des prisonniers politiques en Colombie. Malheureusement, on devait avoir avec nous, parce que cet événement-là avait été pensé dans le cadre d'une tournée d'une colombienne, membre de la Fondation Comité de solidarité avec les prisonniers politiques en Colombie, qui devait donc faire une tournée au Canada et participer à cet événement-ci ce soir. Malheureusement, son visa a été refusé par l'ambassade canadienne, donc elle n'est pas avec nous. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Jarrett du réseau de la Commission populaire.
Thanks. So, just a little bit of background. The People's Commission Network is sort of the continuation of a project that happened a few years ago, the People's Commission on Immigration Security Measures, which is exactly what it sounds like for people who aren't familiar. It was essentially a project to bring together testimonies and documentation and evidence about people who were living the hell of immigration security measures. and so the you know, as a continuation of that project and other projects, the People's Commission Network formed over the past year or so. And I'm just going to read the description because I think it's succinct and clear. The network is a space for individuals and groups who face oppression in the name of national security and their allies to form alliances, share information, and coordinate strategies to defend their full rights and dignity. So I think it's a logical place for people to plug in who are interested in the topics that we're going to be discussing tonight. So I'm going to try to just throw out a few different ideas, some of them my own, some from other people in the network, and hopefully it'll provide some ideas and some starting points for discussion. It's far from being a full thesis or one continuous stream. It's just a few separate things that I think are important to keep in mind. So the question that was posed by the organizers of this event that I want to focus on is, so what is the impact of anti-terrorism discourse on our organizations and the communities in which we work? And I want to focus specifically on anti-terrorism discourse. Obviously, anti-terrorism discourse and talk about national security are now interchangeable, so that's what I'm going to be talking about. I want to talk about three things. One, I want to talk about a lot of the issues that have sort of dominated the public debate that I think are, for the most part, chatter that sort of distract from the more important things that are happening. The second thing I want to briefly touch on is the effect of national security discourse and terrorism discourse, how it creates political exclusion and silencing of a whole range of political ideas and voices and movements. And the third thing, which is related, is how that discourse has the effect of depoliticizing the discussion about social movements, struggles for national liberation, etc., and frames it in an apolitical context, which is obviously problematic for the people who are trying to advance one social movement or political ideology or another. So first about the chatter, I think that the focus on legislative changes or the creation of new crimes or the creation of new state powers in the name of national security, I think that focus has been a little bit unfortunate because it tends to be distracting from the more substantive things that are going on. So, some of it's before September 11th, 2001, some of it after, but, we've seen new provisions in the criminal code, Bill C-36, the creation of new crimes, the creation of draconian state powers to combat terrorism. And there has been a whole lot of debate and discussion about whether these measures are necessary, whether they go too far, et cetera, et cetera. That's been the focus of a lot of the mainstream discussion. And, on the left and among radicals, there's also been a lot of talk about the expansive definition of terrorism in the criminal code, and whether it could or couldn't be invoked to cover social movements and political actions and things like that. Without belittling or marginalizing those issues, they are important. I want to highlight the fact that I think that they disguise or they cover some of the more important things that are going on, particularly because a lot of the discussion focuses on the criminal code and the criminalization of quote unquote terrorist activity. The title of tonight's event is about the criminalization of social movements, and obviously broadly speaking, that makes perfect sense. But I think that we should always be careful when we're talking about criminalization, and we should avoid an undue focus on criminalization as such, because in the modern national security state, criminalization is no longer strictly necessary in many, many circumstances. Often, the state has other means at its disposal, other powers that it can invoke, other tools that can be used to silence people, to exclude people from political activity, etc. So criminalization in many instances ends up being the tool that has to be used or that is chosen against relatively privileged members of a society because it's the only thing available. But more and more we're seeing the recourse to other powers, immigration powers being the most obvious example, but it's not just criminalization that's happening. So I think that we should think carefully about the concept of national security as such, and not talk solely about terrorism and counterterrorism. One trend or one thing that we're seeing is the invocation of counterterrorism discourse, talk about terrorism, talk about the terrorist threat, etc., to give the false impression that national security and public safety are synonymous. What do I mean by that? I mean that when you hear the government, when you hear CSIS, when you hear federal court judges, when you hear most mainstream discussion about national security these days, what you see is national security being equated with counterterrorism. So it's basically national security means our security. National security means keeping you safe from physical harm. I think that it's quite deliberate. We have these constant attempts to make us think and to make to make people believe that national security and counterterrorism are identical. And there was a speech given by the director of CSIS last week, and it's pretty interesting because he keeps lamenting the fact that the debate about national security in Canada is, in his opinion, not very complex, not very nuanced, etc. But throughout the speech, every time he talks about it, he tries to reduce it to anti-terrorism, counterterrorism, as if that was the be-all and end-all of national security. And it's not. The official definition of national security goes so far beyond terrorism, counterterrorism measures. If you just look at the definition of national security in the CSIS Act, for them, threats to security of Canada means there's a list of things. I'm going to read a couple of the ones that obviously don't include terrorism. One, foreign influenced activities within or relating to Canada that are detrimental to the interests of Canada, whatever those are, and are clandestine or deceptive. But there's nothing about violence or harm or anything like that. It's just activities that are clandestine that are harmful to the interests of Canada. And the clearer example is the end of the list where it mentions activities directed towards the destruction or overthrow by violence, but destruction of the constitutionally established system of government in Canada. So subversive activities of any kind, whether or not they involve violence. That's what national security is. But we're constantly led back to the idea that it's all about protecting the public, it's all about terrorism, it's all about how to stop bad people from hurting us. And that really, that saps any meaningful content out of the debate. It's hard to disagree with trying to stop people from hurting us. So, you know, recently we've seen a number of examples of CSIS and other security agencies targeting radical organizers and activists, particularly in the anti-Olympics organizing right now in Montreal and Vancouver. And a lot of what I hear about that is people sort of ridiculing them for thinking that somehow these people are going to be involved in terrorism, and oh, isn't that funny? They don't understand us at all. How could they think that we would do that, or that this or that group would do that? But that's not what it's necessarily about. It's again, activities directed towards the destruction of the constitutionally established system of government in Canada, or foreign influenced activities that are detrimental to the interests of Canada and are clandestine or deceptive. So we should be careful about thinking about national security solely in terms of terrorism and counterterrorism. So the other point that I wanted to make, and there are two related points. One is the impact of national security discourse, and I think this is something that will come up in the other people's talks, so I'll touch it briefly, but the impact of national security discourse and the anti-terrorist discourse, and of course the not just the discourse but the rather heavy-handed state apparatus that goes behind it, on global movements outside of Canada, particularly struggles for national liberation. Various state actors in Canada, CSIS, the Canada Border Services Agency, the RCMP, Immigration Canada, routinely target immigrants, refugees, people in the country without status for detention, deportation, harassment, for intelligence gathering purposes, etc., because they have links to various movements around the world that have been branded as terrorist. The list is long, and everybody's familiar with a number of them. The PFLP, Hezbollah, Tamil Tigers, World Tamil Movement, the FARC, the PKK, the list goes on and on. So all these political movements, we agree with them, disagree with them, like their tactics, don't like their tactics, etc. But they've been branded as terrorists. So people who are here who associate with those movements for one reason or another can't talk about it, can't be involved in the movements. It's a complete exclusion from public discourse, from public debate. People who voluntarily associate or who publicly associate with those movements place themselves at risk. So we have a greatly reduced debate, discussion, etc., about these movements, and instead it just becomes about terrorism. It's not particularly helpful. And the last thing I wanted to mention briefly is coming back to the point that I started about, but I think one of the most insidious aspects of the national security agenda, and one of the most successful things I would say, not for people like us, but for the government, is the way in which that the national security discourse has depoliticized the debate. And this is, tied to what I was talking about. What we end up is a discussion of human rights, or a discussion of civil liberties versus security. And, it's not a very rich debate. Again, it's how far can we go to stop bad people from hurting us is essentially what it keeps coming back to. And we see repeated examples of particularly CSIS, but other agencies as well, making explicit attempts to frame the debate in those terms and in those terms alone. And I think that we should resist that tendency, and we shouldn't be talking solely about civil liberties versus anti-terrorism measures. Now, obviously, people who find themselves targeted individually by those measures, security certificates, deportation, etc., often they don't have a choice except to respond in that language, in the courts, in the media, etc. People who have their back to the wall, they're often limited in the kinds of discourse that they can access and that might be successful. But for the rest of us, I think we should really resist talking in that kind of language and focusing specifically on those issues of you know, how far is too far in terms of anti-terrorism measures and civil liberties. And we should remember that at the heart, these are debates about political values and choices. So, sorry for your honor.
Alors maintenant, je vais passer la parole à Hélène sur, qui va nous parler plus sur la question, qui fait partie du collectif Certain Days, pardon, et qui va pouvoir présenter plus amplement son collectif, mais qui font un calendrier en solidarité avec des amis politiques aux États-Unis et essaie de diffuser la situation donc de ces personnes ici et ailleurs.
OK, merci. Je pense que je vais essayer d'intervenir en français. Je dis essayer parce que je suis anglophone, mais j'ai l'idée que la plupart de monde ici comprend mieux le français que l'anglais. Donc, si ça va mon français, je vais continuer en français, c'est beau? OK. Bon, alors, comme Tania a dit, je vais commencer par présenter un peu notre groupe. Comme elle a dit, on produit une calendrier qui s'appelle Certain Days Freedom for Political Prisoners Calendar. Et quand je dis on, c'est une groupe qui, dont les membres incluent des prisonniers politiques et aussi des gens comme moi qui ne sont pas des prisonniers politiques. Ça s'est formé en 2000, l'année 2000. Avant ça, pour quelques années, il y avait plusieurs militants et militantes ici à Montréal qui faisaient de la solidarité avec des prisonniers et prisonnières politiques aux États-Unis. Comme vous savez, on est très proche de la frontière avec les États-Unis et surtout avec l'État de New York. Et beaucoup de prisons en l'État de New York sont très proches de la frontière. Donc, la plupart des prisonniers politiques dans l'État de New York sont plus proches à Montréal qu'à New York City. Donc, c'était surtout les militants de Montréal qui visitaient, qui faisaient un soutien matériel et pratique pour des gens-là. À certains moments, on a réalisé que, regarde ici, on a des militantes qui sont comme très radicales, faisaient un très bon travail depuis plusieurs années, des membres du Black Panther Party, des membres du Weather Underground, des groupes comme ça. Et on savait toujours que on avait beaucoup d'apprendre d'eux autres et on avait toujours appris beaucoup d'eux autres, mais on voudrait avoir un projet en commun, pas juste leur soutenir dans leur lutte pour la liberté, mais aussi faire quelque chose vraiment concret ensemble. Donc, une des prisonniers politiques, Herman Bell, qui est un ancien membre du Black Panther Party, il a eu l'idée de publier un calendrier. Donc, on fait ça, notre premier calendrier est sorti en 2001. Alors, c'est nous un peu, et la raison pour laquelle je rencontre cette histoire un peu en détail est justement pour faire le point que des militants actuels, si je peux le dire comme ça, des gens comme moi et vous, je pense que la plupart de nous ici sont en bas de la 40, disons, on n'a pas vécu la sorte de lutte qui ont vécu des gens qui étaient militants dans les années 60, 70, quand ici en Amérique du Nord, le niveau de la lutte, le niveau de résistance était beaucoup plus haut. Alors, on a beaucoup, beaucoup d'apprendre d'eux autres. Et aussi, pour moi, je pense que c'est très, très clair parmi les militants à Montréal, l'importance d'une solidarité internationale. Mais ce qui est un peu moins clair pour tout le monde est l'importance d'une une solidarité intergénérationnelle. Et je pense que l'État, une forme de répression qui est un peu plus subtile est de diviser les générations pour qu'on a toujours à apprendre à partir de zéro à chaque fois qu'il y a une autre génération qui commence la lutte. Et je pense que l'emprisonnement des prisonniers politiques ça, c'est justement une tactique pour séparer les générations. Il y a aussi plein d'autres tactiques, mais l'imprisonnement, ça, c'est une le plus fort, le plus clair, le plus efficace que l'État a à son disposition. Alors, pour ça, pour nous, en Certain Days, c'est très important d'intégrer les idées des prisonniers politiques qui sont en prison depuis les années 70, les années 80, de leur intégrer comme personne, mais aussi d'intégrer leurs idées, leurs leçons dans les mouvements actuels. Alors, pour parler un peu de la question qui nous a amené ici, j'aimerais parler un peu de quelques exemples comment le discours a changé après le 11 septembre 2001, mais j'aimerais aussi mettre l'emphase sur le fait que, comme Jared vient de amener, c'est pas vrai que le monde a tout changé le 11 septembre 2001. C'est pas que le discours antiterroriste n'existait pas avant. Et justement, quand on voit la rhétorique qui était toujours utilisée contre les mouvements politiques et le discours que je vois quand je regarde comme dans les transcrits de procès des prisonniers politiques avec lesquels je travaille, par exemple, mais aussi comme juste dans des textes d'histoire, c'était toujours comme pour mettre l'étiquette du terroriste sur les mouvements armés, bien sûr, mais aussi les mouvements militants non armés. Parce que quand je parle des prisonniers politiques en Amérique du Nord, c'est surtout des groupes qui étaient impliqués dans les luttes armées, les groupes comme le Black Liberation Army, Weather Underground, American Indian Movement, quoi d'autre, Puerto Rican Liberation Movement, des groupes de même qui avaient un aspect armé, mais les groupes comme The Black Panther Party, ils faisaient aussi beaucoup, beaucoup de travail non armé, des organisations communautaires, comme faire des cliniques gratuites, cuisine collective comme genre Food Not Bombs, mais comme dans les ghettos des villes américaines. Alors, tout ça était aussi réprimé, mais je pense dans le contexte où il y avait une résistance efficace, soit armée ou non, une résistance qui posait vraiment un défi, merci, à le pouvoir de l'État. Alors, et aussi quand on regarde le discours antiterroriste parmi comme tous les États dans le monde, c'est toujours comme ça. On voit ça comme la répression contre les mouvements en Palestine, en Colombie. En fait, je pense à des différents pays où on a des liens comme Certain Days avec des autres prisonniers politiques, ils sont toujours, l'État leur met toujours l'étiquette des groupes armés, même s'ils ne sont pas des groupes armés. Pour donner un exemple, on a dans le calendrier qui vient de sortir pour 2010, on a un article écrit par Ivan Sanchez, qui beaucoup parmi nous connaît probablement. C'est un homme basque qui est venu ici à Montréal et qui était déporté vers l'Espagne parce que l'Espagne disait qu'il était un membre de ETA, qui est un groupe armé basque qui veut un groupe qui lutte pour la libération nationale basque. Mais l'État d'Espagne, ils ont leur propre loi antiterroriste et chaque militant basque, ils disent que cette personne fait partie de l'État et souvent ils utilisent la torture pour faire, euh, pour faire dire des gens que oui, je suis membre de l'État, même s'ils l'ont pas, ils le torturent jusqu'au point qu'ils admettent, entre guillemets, qu'ils sont membres de l'État. Et là, à un moment qu'ils ont admis, entre guillemets, qu'ils sont membres d'État, ils peuvent utiliser les lois antiterroristes. Donc ça, c'est un exemple actuel qui se passe avec une prisonnière politique actuelle, mais en Espagne. Mais Canada était aussi complice dans ça, dans le cas de Ivan, parce que justement, ils l'ont déporté pour faire face à tout ça. Nous autres ici, on a aussi... nos propres lois antiterroristes, mais comme Jared vient de dire, c'est toutes les tactiques de l'État travaillent ensemble. Ils utilisent aussi les lois d'immigration et tout autre pouvoir qu'ils ont pour réprimer les mouvements politiques. Et quand on regarde historiquement, ils ont toujours fait ça, même avant le 11 septembre. Donc, on ne doit pas faire l'erreur de penser que c'est juste le 11 septembre qui a créé ça. J'aimerais parler de deux exemples. Qui ont un lien pour nous autres à certaines days particulièrement. Juste pour comme faire le... comparaison avant et après le 11 septembre. Est-ce que tout le monde ici connaît, quand je dis le terme COINTELPRO, est-ce que tout le monde sait de lequel je parle? Non? OK. COINTELPRO, c'est une acronyme pour Counter Intelligence Program, qui était un programme de le gouvernement des États-Unis qui, en fait, s'est commencé dans les années 50 contre les communistes à l'époque. Mais dans les années 60, c'était surtout utilisé contre les mouvements militants comme le Black Panther Party, Puerto Rican National Liberation Movement, des gens de même. Et ça a continué officiellement jusqu'à l'année 71, mais on peut dire que ça a continué pour toujours, mais ça a sûrement continué pendant les années 70. Et c'était, je veux citer quelque chose... La but de ce programme-là, selon un mémorandum interne de COINTELPRO en 67, c'était appliqué contre le mouvement militant noir aux États-Unis. Leur objectif de COINTELPRO, c'était, je vais le citer en anglais, to expose, disrupt, misdirect, discredit, or otherwise neutralize the activities of black nationalist hate-type organizations and groupings, their leaderships, spokesmen, members, and supporters to counter their propensity for violence and civil disorder. Alors, ça, c'était leur but pour combattre, justement, les groupes qui faisaient, du militantisme, des fois armé pour surveiller contre la brutalité policière dans leur quartier, mais aussi qui passaient du bouc gratuit, qui faisaient des cliniques gratuites, comme, justement, qui essayaient de faire du travail communautaire. Mais qui le faisait avec un grand succès pour la libération plus grand. Alors, ce programme COINTELPRO, ça a plus ou moins cassé le Black Panther Party. Il y avait beaucoup de monde comme littéralement tué, mais il y avait aussi des grands splits dans le groupe qui étaient causés, tout ça. Les raisons pour lesquelles je cite ça, c'est parce que il y avait quand même des militants qui restaient comme militants. Le groupe s'était cassé et il y a beaucoup de monde qui était soit tué, envoyé en prison, réprimé dans des autres façons. Mais en 2007, alors après le 11 septembre 2001, il y avait un procès qui était comme recommencé contre 8 membres du Black Panther Party pour qui était accusé d'avoir tué un policier en San Francisco en 71. Et la raison pour laquelle ça pourrait être repris, c'était à cause de les lois qui étaient, comme le Patriot Act et tout ça, qui étaient amené après le 11 septembre. Donc, je pense que non, ce n'était pas le début de la répression et d'être affiché comme terroriste, mais ça donne des nouveaux pouvoirs aux États, légaux, mais aussi comme juste en termes de rhétorique, pour nous réprimer. Je vais terminer là parce que je pense qu'il me reste plus de temps.
Merci beaucoup, Hélène. Alors, je vais passer la parole à Marina du Comité de solidarité autochtone de Montréal, qui va aborder justement plus la question de toute la stigmatisation, la répression et la persécution, autant politique que judiciaire, contre les mouvements de résistance autochtones ici.
So I'm from the Indigenous Solidarity Committee of Montreal, and I'm going to be talking about how about repression and the history of repression on Indigenous communities. So while post 9/11 laws have definitely facilitated repression against Indigenous communities, the repression against Indigenous people on Turtle Island has been taking place for over 500 years, because colonialism is the foundation of the Canadian state. So it started with the earliest settlers that were stealing Indigenous lands while being protected by the military of the Crown. And then it was reinforced through territorial and through cultural dispossession, through the Indian Act, through the forced assimilation policies like forced sedentarization and compulsory residential schools. And even forces like the RCMP have their origins in the repression of Indigenous resistance movements. For example, the movements against settler expansion in the West in the 1800s, such as the Red River, the Northwest Rebellions that were led by Louis Riel. That's where the RCMP kind of started off. And in connection to this, most domestic military operations in Canada have been aimed at Indigenous people and at Indigenous resistance movements about land that was annexed by the Canadian state. So I think, have most people heard of the Oka Crisis already? So that's one example. Another example that's maybe a bit less well known is the Gustav and Lake standoff in 1995. It was people from the Sekwa Pemek Nation, I'm sorry if I'm not pronouncing this properly, that were defending unceded Spetén territory that they were using for sacred ceremonies like the Sundance. And the land dispute became really acute when a white ranch owner wanted to assert his private property rights under Crown state laws. So the RCMP was called in, and it launched one of the largest police operations in Canadian history. So it included the deployment of 400 tactical assault team members, 5 helicopters, 2 surveillance planes, 9 armored personnel carriers, and so the list kind of goes on. And by the end of the 31-day standoff, the cops had fired over 77,000 rounds of ammunition. One woman had been shot, a dog had been killed. And this was under the direction of the BC Attorney General, Uja Dosanjh at the time, who was later to become the NDP Premier of the province. And it was the largest paramilitary operation in Canadian history, and so it was aimed at Indigenous movements. And it cost over $5 million. So that's just kind of an example of that. Before I'm gonna go on to talk about some of the more like recent cases of repression against Indigenous peoples, I just wanna get a little bit more into how repression functions and kind of touch on what's already been said before. And so sometimes repression is understood as an excessive or an outrageous violation of people's rights. And I think it goes beyond this. And we can also look at repression as an ongoing and integral part of any society that's based on exploitation. So in other words, repression is a mechanism. It's a fundamental mechanism of how states function. So basically, for a state to maintain power and to maintain the social order that it's based on, it's necessary to have repression and to recuperate parts of social movements and to repress other parts. So it's the classic divide and conquer scenario. But what's important to realize, though, I think, is that repression is a long-term, ongoing strategy that's always happening. It's not just an occasional occurrence. It's not just a response to certain things, but it's ongoing. There's an author named Christian Williams who did an analysis about fundamental changes of repressive strategy in the US, and we can see this in the Canadian context as well. And he talks about how following the uprisings of the 60s and 70s, including the AIM, the American Indian Movement uprisings in the States, the state switched to a strategy of permanent repression, or as he calls it, counterinsurgency. Learning from their past failures, the cops developed a preemptive model of repression, which thought to prevent insurgency before it happened. So in other words, the state tends to like prepare for what it provokes. And a really relevant event that illustrates how this ties into how the Canadian state views Indigenous peoples that don't support its project of assimilation was the release of the Canadian military draft counterinsurgency manual in 2007. The Globe and Mail managed to get a copy of it and reported that radical natives are listed in the Canadian Army's counterinsurgency manual as a potential military opponent, lumping them in with the Tamil Tigers, Hezbollah, and the Islamic Jihad. The manual then advocated using tactics that were taught in the U.S. School of the Americas that was used to repress people in Central and South America for decades. As in Canada, Indigenous people were fighting for survival, for self-determination, in defense of their land base. The publication caused a scandal, and the government backtracked and promised to take it out of the manual. But the whole incident is really telling and reveals how they approach Indigenous peoples. And even if it's no longer published for public consumption, whenever land disputes arise, that's the operations manual. So we've seen the term terrorism being used to criminalize and to marginalize Indigenous resistance to colonialism and to capitalism. Right now we can really see this playing out in the criminalization of the struggle against the 2010 Olympics on Coast Salish territories in British Columbia. So a few years ago, a call for resistance went out under the slogan of No Olympics on Stolen Native Land. So the Olympics will be taking place on unceded Indigenous territories. And they're a pretext to make way for a controversial infrastructure development like the Sea to Sky Highway or the Sun Peak Ski Resort. And they're also being used as a pretext to expand criminalization and repression of social movements. So the security budget for the games right now is over $1 billion. And the military has established a joint task force, which is the like anti-terrorism unit for the security of the games. Since 2007, police and intelligence agencies like CSIS, the RCMP, and the Vancouver Police Department have been targeting anti-Olympics opposition as a security threat to the games, and they've particularly been targeting Indigenous people. Activists and others who are suspected of opposing the games are being continually harassed. Beginning in 2008, CSIS also started to try to recruit informants to gather information about the resistance to the games. And so, of course, all this is being done in an attempt to scare people away from opposing the games and from supporting the call by Indigenous people to oppose the games. A really particularly, brutal case of state repression was the arrest of Indigenous warrior and elder Harriet Nahani. She was arrested in 2006 for defending Squamish land against Olympic-related development. And this was part of a mass arrest and eviction of a month-long land defense camp in West Vancouver that had been set up to stop the destruction of a highway expansion between Vancouver and Whistler. So her arrest was kind of part of this ongoing process. When she was in court, Harriet Nahani refused to apologize for the defense of her land, and she said that she didn't recognize the authority of the court system and stated that she was a sovereign Indigenous person. Because of her refusal to show remorse, she was sentenced to 2 weeks in jail, during which time she suffered from pneumonia, and then she died on February 2007, a few days after her release. So I'm just gonna mention another case of repression against Indigenous movements, which took place closer to Montreal in 2006. Haudenosaunee women at Six Nations took direct action to reclaim their unceded lands that were being developed by settlers while the negotiations for those lands, which were legally Haudenosaunee lands, were going nowhere. And the community came out to support the action, and they started to take back the land that was being made into condo development illegally by Hanko Industries. Hanko got an injunction to get Six Nations people off the development site and got the state to bring in the OPP, which is the Ontario Provincial Police, 3 weeks later. So at the crack of dawn, while most people were sleeping, about 150 OPP cops invaded and assaulted the people that were protecting the reclamation site. One of the windows of one of the vans was broken that was there. It was an unmarked van, and it was revealed to hold a sniper unit. And at the end of the day, the OPP responded with 21 arrests. And repression against the reclamation site continued for months afterwards. Six Nations land defenders exposed a special agent from the American Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, who was on a so-called intelligence sharing mission, which the ATF is a specialized U.S. Federal force that's responsible for fighting terrorism and violent crime. So this dude was on Six Nations land in Canada. This shows an ongoing criminalization of this whole case of an Indigenous community that continues to defend their own land, actually, against industrial development that is being made and being targeted by these organizations that are there, you know, to target terrorism. Maybe another way in which criminalization has affected Indigenous resistance movements has been in trying to criminalize any attempts at economic autonomy and self-determination, such as through the Indigenous control of the tobacco trade. Because an Indigenous control trade in tobacco would help throw off the financial dependence that reserves often have on the federal government. The state has been trying to stop that at all costs. And for example, CSIS, the Canadian spy agency, has been poking around in Ganawage recently, trying to recruit informers about the tobacco trade and link it to funding terrorism in an effort to shut it down. And often this kind of repression uses the classic divide and conquer tactics in an attempt to paint some members of communities as good and law-abiding, while at the same time isolating others as violent terrorists, simply for engaging in defense of their own land. And in creating these divisions, the state tries to weaken and to isolate those who challenge Canadian colonialism. And finally, repression against Indigenous people isn't limited to repression against social movements. But on a very basic level, Indigenous people are 10 times more likely to be incarcerated than non-Indigenous folks. They're twice as likely to be arrested or charged. They're more likely to be denied bail, and they're more likely to be victim of racist or violent experiences in custody. They're more likely to be categorized in maximum security. They're less likely to be given parole. They're more likely to be found in breach of parole for non-criminal offenses. So in a state that's based on colonialism and segregation, repression affects everyone. So it's it. So maybe just to conclude this, so as a movement, we need to come up with effective strategies for dealing with repression and expanding our understanding of how it functions and the ways that in which it affects our movements is a good starting point. And we've also seen that the state tries to divide up and to isolate resistance movements. So we should therefore not be playing into their strategy and not distancing ourselves from those that are being criminalized or repressed. But instead, we need effective solidarity and effective support with those that are being targeted. And I guess the most important is that despite repression kind of being scary and ongoing, it's always happened and people have kept fighting. And a lot of these communities, like the community that was targeted in 1995, they're still fighting today. So it just shouldn't be something that stops social movements from functioning. And that's it.
Donc, je vais passer la parole à Rami et Marie-Ève de Tadamon, qui veut dire solidarité en arabe, qui vont faire leur présentation sur l'impact de la persécution politique du temps que les gens de distance en Palestine sont victimes et encore plus dans le contexte moderne.
Bien, on va vous parler des prisonniers politiques puis de la répression que vivent les Palestiniens de la part des Israéliens. En particulier, on va vous parler du mouvement de résistance populaire contre le mur en Cisjordanie qui est de plus en plus populaire. Mais avant ça, je vais vous donner peut-être un peu de statistiques puis vous parler de quelques cas de prisonniers politiques, de c'est comment la répression. Depuis 1967, c'est l'occupation militaire de la Cisjordanie puis de la bande de Gaza par Israël. Il y a eu 750 000 Palestiniens qui ont été détenus en prison, certains plus longtemps, d'autres moins. Puis depuis en juin 2009, il y avait 8 100 prisonniers politiques palestiniens emprisonnés en Israël. Puis là-dessus, il y a 550 personnes qui étaient en détention administrative. On va vous expliquer c'est quoi après. Puis, il y avait 390 mineurs. Ces prisonniers-là sont maltraités, souvent torturés. Ils n'ont pas accès aux soins de santé. Comme vous vous en doutez, là, c'est des prisonniers politiques par la force de colonisation qui veut, réprimer les colonisés. Une des accusations qui est commune, ça peut être être membre d'une organisation illégale. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas un geste de poser. C'est une accusation pour être membre d'un groupe. C'est pour avoir fait quelque chose. Aussi, une des accusations souvent qui va pour les mineurs, c'est d'avoir lancé des roches. Puis, comme le cas qui est écrit là, vous n'êtes pas obligé de le lire, je vais l'expliquer, là, mais c'est un cas qui arrive souvent, là, mais c'est l'exemple de un garçon de 15 ans qui a arrêté une manif contre la guerre à Gaza, proche de Checkpoint en Cisjordanie, pour avoir lancé des roches. Il se fait arrêter, il se fait battre, il se fait laisser assis à terre dans le froid pendant des heures, les yeux bandés, puis après, il y a eu 4 mois et demi de prison, puis environ 300 $ d'amende. Donc, c'est le genre de punition que peut avoir un adolescent pour ça. Ici, on voit la différence entre le traitement qu'ont les Palestiniens et les Israéliens quand ils se font arrêter en Israël ou en Palestine. Mais on voit que même un enfant aussi jeune que 12 ans peut être détenu pendant 8 jours pour voir un juge de la cour militaire. Quelqu'un peut être détenu aussi 90 jours sans avoir accès à un avocat, puis 188 jours sans avoir eu de charge. C'est la détention administrative. Puis on voit l'autre côté, les Israéliens, c'est comme 48 heures de délai qu'on peut être détenu. Donc on voit l'inégalité. Avant de vous parler du mouvement Cisjordanie, je vais vous parler un peu d'un des mouvements importants en Palestine 48. Qu'est-ce qu'on appelle Palestine 48? C'est ce que les Israéliens appellent maintenant Israël, ce qu'ils ont choisi comme leur État, qu'ils ont pris aux Palestiniens. Mais il y a beaucoup de Palestiniens qui vivent encore là, puis eux sont réprimés aussi un peu dans la vie de tous les jours, comme les Palestiniens qui vivent encore dans les territoires palestiniens. Le mouvement de la Journée de la Terre, c'est un mouvement qui a commencé en 1976 quand le gouvernement israélien a voulu faire la judaïsation de la Galilée, c'est-à-dire installer plus de colons juifs en Galilée, ce qui est une des régions qui fait partie d'Israël, mais où il y avait plus de Palestiniens. Les Palestiniens qui habitaient là ont décidé de faire une grève générale. Puis, Israël, ils ont fait beaucoup de pression pour empêcher cette grève-là. Puis, à cause que l'armée est venue où les personnes faisaient la grève, ça s'est transformé en manifestation. Puis aussi, à Gaza et en Cisjordanie, les Palestiniens ont embarqué en solidarité avec les Palestiniens qui vivaient en Israël. Puis ça finit par 6 morts, il y a eu des centaines de blessés, il y a aussi eu beaucoup des arrêtés. Tout ça pour une grève finalement. Un autre exemple, le 1er octobre en 2000, il y a eu aussi une grève des Palestiniens qui vivent en Israël. Puis il y a eu 13 personnes de tuées à cette grève-là. Donc c'est le genre de répression, enfin pour une action politique. La résistance populaire contre le mur d'apartheid israélien, c'est comme ça que les Palestiniens appellent leur mouvement. C'est un mouvement qui est né quand, vers fin 2004, début 2005, les Israéliens ont annoncé le tracé du mur d'apartheid qui était supposé suivre à peu près la ligne verte qui a été tracée après la guerre de six jours en 67, mais qui rentre beaucoup plus profondément dans la Cisjordanie. Ce que vous voyez là, ce n'est pas l'ensemble de la carte, donc peut-être que vous ne comprenez pas vraiment c'est quoi, mais dans le fond, je voulais vous montrer avec ça les villages qui participent à ce mouvement-là. Le mouvement il a commencé au village de Bilin. Peut-être que beaucoup de vous autres ont entendu parler de ce village-là parce qu'ils continuent la lutte. Ils font des manifestations à chaque semaine depuis 5 ans. Puis ils sont venus au Canada au mois de juin parce qu'ils font un procès contre des compagnies canadiennes qui participent à la construction des colonies sur leur terre. Puis eux, ils ont parti ce mouvement-là qui est de plus en plus populaire. C'est des villages qui sont proches du mur. Est-ce qu'on voit là? C'est des villages qui sont proches du mur qui participent à ça parce que, premièrement, dans les années 80, ils se sont fait voler un peu avant 80, mais c'est là que ça a commencé beaucoup. Ils se sont fait voler beaucoup de terres pour installer les colonies. Puis après ça, dans les années 2000, il y a eu le mur qui venait s'installer en plus. Fait qu'ils se faisaient encore plus prendre de terres. On voit ici le village de Bilin, qui a un peu parti du mouvement. Le village de Nailin, ici, qui est autour de la même colonie. Le village de Djeyous, qui est... par ici, je le vois... je le vois pas parce que c'est pas clair sur ma carte, là, mais en tout cas, c'est dans ce coin-là.
Moi, j'ai vu, en tout cas.
Al-Masara ici, Salamouna, proche du mur. On voit ici la ville de Bethléem, là, peut-être que si ça vous dit quelque chose. En tout cas, vous voyez, c'est tous des villages qui sont collés sur le mur, puis sur les colonies, qui vivent la répression tous les jours, puis beaucoup de restrictions de circulation, puis ça. Puis c'est ça. Ils ont parti un mouvement de résistance populaire, civile, non... Dans le fond, ils appellent leur mouvement non-violent parce que ça, c'est des civils non-armés qui font des manifestations la plupart chaque semaine. Ils essayent d'aller sur le tracé du mur, d'aller sur leurs terres qui sont plus leurs terres parce qu'elles ont été confisquées. Puis ces manifestations-là sont vraiment beaucoup réprimées. Je vais vous montrer des photos. Ça, c'est une manif à Bilin avec les enfants. Nailin, après la manif, c'est les résidus des gaz lacrymogènes dans le champ d'olivier. Ça, c'est à Salamouna. C'est une madame qui a la photo de son fils qui est en prison, dans les mains, dans les ruines d'une maison. Une autre manif à Bilin. Encore. Ça, c'est à Nailin. C'est... en Palestine, quand quelqu'un meurt tué par les Israéliens, il y a un poster de martyr. Puis ça, c'en est un d'un petit gars qui s'est fait tuer pendant une des manifestations. Il y en a eu, je pense, 5 personnes qui ont été tuées là-bas. C'est aussi Annaline, un adolescent qui a été tué. Puis ça, c'est l'enterrement d'une autre personne tuée dans les manifestations. Puis, vas-y.
Hi. I'm going to speak in English if it's not a problem. First, I just want to say I'm very happy to be on a panel where there's people like talking about different other struggles. I think like we're all fighting the same struggle against injustice. Injustice exists everywhere in the world, and we're all like in the same struggle. So I just want to say this. What I'm going to talk about is basically, as Marie-Ève said, there's villages that are organizing demonstration weekly against the wall that's been constructed on their land. I'm going to talk about the repression, and it's based on a report that was made by Stop the Wall, which is a grassroots movement working against the wall, like and another grassroots movement working on the prisoners. It's called Ad-Damir. The information that I have is based on testimonies, like they went and talked to people that were like that are part of this popular resistance, and so it's based on four villages. That's mainly the villages who are on a weekly basis doing demonstrations, with like Belain, Nelain, Masara, and Jayus. And when I talk about repression, I'm talking about killing, I'm talking about injuries that last like all your life. I'm talking about also like collective punishments, so like collective repression against the village itself. So I'm going to go into details. We don't have a lot of time, so I'm going to be very fast. So first thing I want to talk about is like the repression and the threats that the Palestinian demonstrator go through is not something that's like hidden or like actually like the Israeli forces intentionally like want the people in these villages to know that they are under threat. So it's very explicit when they do the, like they call people sometimes and they tell them, oh, you're gonna be arrested. They can like verbally tell the person, like if you continue doing demonstration, I'm gonna arrest you. Sometimes it's done like collectively, so through like the megaphone, so they tell people, if you don't leave now, we're gonna shoot you. Or like, so it's very explicit because they want them actually to know. And that there is consequences if you continue doing the demonstration. And the whole idea of the repression is not to like stop one demonstration. It's basically they want to kill the whole movement. They want to kill this non-violent demonstrations against the wall. So that's why they want people to know about it. They want them to know that they're gonna pay for what they're doing. I'm gonna talk. There's two types of repression, as I said, like individuals and like a collective repression. In terms of like individual repression, Israelis forces say that if someone get killed in one of these demonstrations, that basically, oh well, we're doing like crowd control, or oh, we were defending ourselves, so it was an accident. So I just want to say that it's actually a systematic and intended repression. It's not self-defense. And it just by looking like how people are usually shot, it's shot by snipers that are on the top of a roof, like we see here, or behind fences. So it's basically not a self-defense. Like, I don't think he's self-defending himself here, because he's just like kilometers away from where the demonstration is going on. Another thing is, the people are shot not once. Like, people, when they get shot more than one ammunition. So it's clear it's not a self-defense or crowd control. The other thing I want to talk about, sometimes what they do is like overwhelming aggressions, which means they like, in big forces, like they go suddenly, like a lot of, like many soldiers at the same time, and like they do like a big aggression to like to punish people. Here we see like this was actually a woman demonstration in Bidu, and we see like a soldier hitting the woman on her head from on top of the horse in Bidu in 2005. Just talking about massive like attacks, like in one demonstration, two people were killed. A man died from tear gas after, like, he's an old person, and like more than 70 got injured. That's another technique. Punitive. Sometimes they attack people after demonstration, so they leave. As someone that was punished after leaving, he wasn't doing anything at demonstration. He was like, he had the flag and he was in the demonstration, and then he was. After leaving, they followed him, they took him, they put him, they tied his hands and the eyes and put him in the sun, and then they took him up. It's a Bet Salem video, actually. It's very well documented. He's like eyes folded with the hands like tied, and actually they shoot him like rubber bullet in the foot. It's you can find it on YouTube. Now let's talk about the collective punishment. So before I was talking about individual punishment of people participating, so people don't do this anymore. Here we're talking about collective punishment. This is basically to like cut the ties in a village and to like make the divisions inside the village. So they make a very big attack, like night raids. So night raid, which means in the middle of the night they come, after midnight, and they start either throwing sound bombs, waking up people. Light bombs, they start shouting. Sometimes they come actually inside the house, they break the door. They break the door, they go in and into the bed of someone and they wake him up under the threat of a gun, and they took him. Sometimes they arrest, in Belém, they've arrested many people. Currently there's Adib who was arrested in a demonstration, but they're arresting many people at night. Okay, another collective punishment, they can do curfews or closures or siege. Curfew, which means you're locked inside your own house, you can't leave your place, and they decide, and if you leave, they'll shoot you. Closure and seizure is the whole village or the whole city would be locked, you can't go out. Sometimes they shoot inside the houses, tear gases. As a punishment after demonstration, they follow them, even if inside the house they can, sometimes they shoot, or they destroy the property. So as a punishment for the village, they go with a bulldozer and they remove the trees, they bulldoze the whole agricultural land, and this is their source of living. So, okay, so this is just to say, I already mentioned at the beginning, so the impression is to to actually stop this, either individually, targeting people individually, or targeting a whole village to stop the to make division inside. Okay, so that's it for me. I wanted to
Bonsoir. M'auto-présenter. Donc moi c'est Tania Dupasque, projet accompagnement Solidarité Colombie. Donc brièvement un projet qui fait la solidarité directe avec des communautés paysannes en résistance civile en Colombie, aussi avec des organisations sociales comme le comité de solidarité avec les prisonniers politiques en Colombie. Je ne passerai pas plus de temps sur ce qu'on fait parce que sinon je vais manquer de temps pour ma présentation. Donc, c'est ça. Évidemment, comme d'autres gens l'ont dit aussi dans leur présentation, c'est sûr que la situation de persécution politique et persécution judiciaire en Colombie contre les organisations sociales, contre les mouvements de résistance, date évidemment pas du 11 septembre 2001 ou du discours plus récent de guerre au terrorisme. Il y a une persécution vraiment intense contre les mouvements sociaux dirigés par l'État colombien depuis plus de 50 ans. Et juste pour donner un peu l'ampleur, dans les 25 dernières années en Colombie, on a 5 millions de déplacés internes. C'est le pays où est-ce qu'il y a le plus de déplacés internes après le Soudan. 6 millions d'hectares de terre volés aux paysans par les paramilitaires les grands propriétaires terriens. 3500 massacres, 15 000 dispersions forcées et au-dessus de 5 000 dirigeants de gauche assassinés. Donc, c'est un panorama de persécution politique qui dure depuis vraiment longtemps. Mais quand même, ce qu'on peut voir, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir du président Uribe Vélez, qui est arrivé au pouvoir en 2002, il a vraiment repris avec force le discours de guerre au terrorisme qui était articulé, qui était beaucoup mis de l'avant par George W. Bush. Donc, il en a vraiment fait son cheval de bataille principal. Et il a mis en place ce qu'il a appelé la politique de sécurité démocratique, qui a une caractéristique fondamentale, et c'est de, premièrement, nier l'existence d'un conflit armé interne en Colombie. et de dire non, il n'y a pas de conflit armé interne. Ce qu'il y a en Colombie, c'est une menace terroriste. Donc, par le fait même, il nie le fait qu'il y a des groupes d'insurrection armée qui s'affrontent à l'État pour revendiquer des changements structurels au niveau social et politique et qui, pour le faire, ont choisi la voie des armes. Et en disant ça, ben il nie aussi aux guérillas colombiennes leur statut d'acteur politique qui avait quand même jusque-là été reconnu. En niant donc l'origine sociale, politique, économique au conflit et le fait que ce conflit-là est basé sur l'existence d'inégalités sociales puis l'absence aussi de voie démocratique pour exercer l'opposition sans mettre en péril sa vie. Donc, il nie aussi la possibilité d'arriver à une solution politique et négociée au conflit, ce qui est une revendication de la grande majorité des organisations sociales colombiennes qui, même si partagent pas nécessairement l'option de prendre les armes, mènent de l'avant cette revendication-là que la solution au conflit doit être une solution politique et négociée. Donc, en disant qu'il n'y a pas de conflit armé interne, ce que c'est une menace terroriste, on dit aussi que la seule voie par laquelle on peut en arriver à finir donc avec cette menace narco-terroriste, c'est par la voie militaire. Et c'est aussi une vision un discours qui met de l'avant le fait que toute la société doit collaborer dans cette guerre-là au terrorisme. Donc, c'est l'idée de faire disparaître un peu la ligne entre le civil et le militaire et dire, ben, qui refuse de collaborer avec l'État dans cette guerre au narco-terrorisme est donc potentiellement suspect, potentiellement collaborateur de la guérilla. Donc, cette politique de sécurité démocratique, justement, qui met vraiment de l'avant un discours unilatéral. Et le droit, finalement, à l'opposition la plus primaire, elle existe seulement sur papier. Dans les faits, assez fait complètement. En fait, c'est un peu comme vous avez le droit de critiquer, mais si vous critiquez trop ouvertement le gouvernement, ben vous allez être stigmatisé publiquement, menacé de mort, accusé judiciairement ou assassiné. Donc, un exemple un peu concret de ça, en 2003, le président Uribe fait un discours public à la nation devant les forces armées. Puis, dans ce discours-là, il a dit au général de l'armée de ne pas détenir ses actions de ne pas être intimidé finalement par les trafiquants de droits humains au service du terrorisme. Donc, c'était une façon de donner le ton et de dire vraiment feu vert à la répression contre les mouvements sociaux. Depuis 2002, on a 3500 personnes qui ont été assassinées ou victimes de disparitions forcées aux mains de l'armée ou des paramilitaires en Colombie. Et récemment, en 2009, Uribe a repris encore ce discours-là en disant « Lorsque les narco-terroristes, en se référant à la guérilla, se retrouvent pris au piège et affaiblis militairement, ils envoient leurs émissaires idéologues pour agiter la bannière des droits humains. » Donc, c'est encore une façon de vraiment stigmatiser les organisations sociales, les défenseurs de droits humains et justifier la répression, la criminalisation de leurs actions. Et on voit aussi depuis septembre dernier, il y a aussi fait plusieurs hauts fonctionnaires colombiens ont fait beaucoup d'affirmations dans les médias à l'encontre des mouvements étudiants parce qu'il y a eu plusieurs manifestations étudiantes dans les derniers mois contre la privatisation. Et le discours qui était mis de l'avant par le gouvernement, c'est le fait que les associations étudiantes sont infiltrées par la guérilla et le terrorisme. Et ça, encore une fois, vient justifier toute une série de mesures de répression et, entre autres, la criminalisation des membres des associations étudiantes et des mouvements étudiants. Peut-être pour mettre un peu en contexte aussi, depuis 2002, les États-Unis ont déboursé 5 500 millions de dollars pour lutter contre le narcotrafic et la guérilla en Colombie dans le cadre du plan Colombie. Ce qui est drôle, c'est que quand on voit un peu les chiffres du ministère de la Défense colombien par rapport
aux victoires ou aux avancées de sa politique de sécurité démocratique. Il y a des chiffres assez amusants quand même. On dit que au total, on aurait capturé, entre les membres de la guérilla qui auraient été ou capturés, démobilisés ou abattus, il y en aurait 60 000. Ce qui est complètement ridicule parce qu'il n'y a jamais, je crois, eu 60 000 membres de la guérilla actifs. Puis, si on prend seulement les chiffres par rapport aux FARC, qui sont les Forces armées révolutionnaires de Colombie, donc, on dit qu'il y en a eu 19 818 entre capturés, démobilisés ou abattus. Mais en même temps, en 2002, les mêmes chiffres du ministère de la Défense affirment que le nombre d'hommes, hommes et femmes faisant partie de la FARC était de 16 900. Donc, si on fait un calcul rapide, il y aurait moins 2 913 guerrieros aujourd'hui. et je parle de ça pourquoi? Parce que, en fait, donc, selon ce discours-là, ben, il serait déjà exterminé, les mouvements d'insurrection armée. Donc, pourquoi aujourd'hui, encore, on a un accord qui est signé entre les États-Unis et la Colombie pour l'implantation de sept bases militaires américaines, avec encore le même objectif de lutte contre le terrorisme et contre le narcotrafic pour les prochains 10 ans? Fait que vraiment, en fait, ce qu'on voit, c'est que oui, ces chiffres-là sont gonflés, mais aussi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des milliers d'assassinats et de captures de civils, de membres de la population civile, des organisations sociales, des mouvements paysans de résistance, des leaders syndicaux, étudiants, autochtones, afro, des défenseurs de droits humains qui sont criminalisés, qui sont mis en prison sous des fausses accusations, victimes de montage judiciaire ou simplement victimes de disparitions forcées ou d'assassinats. Et une des stratégies, donc, pour pouvoir arriver à mettre ça de l'avant, c'est, entre autres, la mise sur pied d'un réseau de 2,5 millions d'informateurs. Donc, c'est des gens qui sont payés par l'État colombien pour donner des informations, supposément pour dénoncer, finalement, des gens d'être des membres ou des collaborateurs de l'insurrection armée. Mais ils sont payés à l'information. Donc, aussi, on utilise la misère des gens. Ça l'a permis de mener une série de détentions massives arbitraires. Juste dans les 3 premières années du gouvernement d'Uribe, on a eu 8 000 personnes qui ont été victimes de détentions massives arbitraires. Et ça a été démontré après qu'au moins 80 % de celles-ci étaient complètement illégales et ont dû être acquittées. Donc, cette pratique-là des montages judiciaires avec des faux témoins payés par l'armée est une pratique vraiment répandue et c'est clairement une façon de faire la persécution contre les mouvements sociaux. Actuellement, en Colombie, on a plus de 7200 prisonniers politiques dans les prisons colombiennes, dont la majorité d'entre eux sont des civils. Plus de 70 % seraient des civils, des membres d'organisations sociales. Les autres, ben, sont des combattants qui, en fait, devraient être considérés comme, selon le droit international humanitaire, comme des prisonniers de guerre et non pas comme des terroristes. Donc, ce qu'on voit, c'est que, alors qu'avant, on accusait, dans le fond, les membres de la guérilla de rébellion, maintenant, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on va accuser les membres des organisations sociales de rébellion et les membres de la guérilla de terrorisme. Mais même dans les dernières années, on a un glissement vers la criminalisation idéologique encore plus aiguë, où est-ce que récemment, il y a d'ailleurs le cas, par exemple, d'un étudiant qui participait à une manifestation et qui s'est fait arrêter et chargé d'avoir lancé des... Papas explosiva, c'est un peu comme l'équivalent d'un cocktail Molotov version light. Et donc, cet étudiant-là a été accusé de, il y a comme charge, terrorisme. Finalement, aussi, quelque chose qui a été... qui a fait scandale vers la fin 2008, c'est tout le scandale des faux positifs ou des exécutions extrajudiciaires. C'est le fait que l'armée tue des civils, puis les fait ensuite passer comme morts au combat. Donc, prend des leaders d'organisations sociales, qui sont sur les listes. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on les assassine. Ensuite, on leur met un habit de camouflage, un arme, on prend quelques photos, puis là, on dit « Voici un guerriero mort au combat ». Ça, ça fait augmenter les chiffres qu'on voyait tout à l'heure des victoires de guerre contre le terrorisme. Mais c'est aussi justement toute une stratégie de persécution politique camouflée dans ces chiffres, finalement, de l'armée. Et on calcule qu'il y a eu, au cours des deux derniers mandats de Uribe, donc de 2002 à 2007-2008 sont les derniers chiffres, 1881 personnes qui ont été ainsi assassinées froidement par l'armée, qui étaient des civils, mais qui ont été déclarées comme morts au combat. Donc, tout ça pour dire que, donc, c'est ça, je pense, tout le prétexte en conclusion de la guerre contre le narcoterrorisme, c'est juste un prétexte qui permet de faire une campagne de salissage pour délégitimer l'action des organisations sociales. Aussi, on a vu quand Uribe est venu ici en juin dernier, puis il y a eu des manifestations contre sa présence puis contre la signature d'un traité de libre-échange avec le Canada. Il a fait des déclarations dans les médias comme quoi les organisations ici qui s'opposaient contre le traité de libre-échange étaient infiltrées par des Colombiens qui, dans leur pays, pratiquaient le terrorisme et ici étaient devenus des réfugiés et se cachaient dans les organisations de droits humains. Donc c'est ça. Je pense que c'est important, peut-être pour la discussion après, de voir que cette campagne de peur-là, qui est orchestrée auprès de la population dans les médias avec le discours de la guerre contre le terrorisme, ça vise pas seulement à réprimer puis à faire taire, mais aussi à faire perdre l'appui de la population, à faire perdre aux organisations cet appui-là de la population en menant cette opération-là de démonisation, dans le fond, de nos luttes ou nos mouvements. Ce terrorisme-là d'État, ben ça peut engendrer, dans certains cas, un peu une paralysie de la société, puis le silence, et donner une fausse impression d'une opinion publique unique. Donc, c'est pour ça qu'on pense important, même si l'exemple de la Colombie est un peu un extrême, que cette même logique-là s'applique partout, maintenant, globalement, à différents degrés. Et donc, on pense que c'est important de pouvoir s'organiser face à cette stigmatisation-là des luttes, puis leur possible criminalisation, puis de voir quelle réponse on peut avoir à cette offensive-là politique de la droite sous le couvert de la guerre au terrorisme.